Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est juste 11 heures. Très bien. Voilà. Je pense que pas tous sont là. Est-ce qu'on peut remarquer ceux qui ne sont pas là aujourd'hui? Ou bien? Gauthier, tu penses que qui n'est pas là ce matin? Laurence? Andréani, c'est un voyage. Ils sont en voyage. Jean, tu penses que... Voilà. Michel Moulia. Dominique, Tino, Evelyne. Voilà. Oui. Est-ce que parfois ça nous manque? Ça nous fait sentir quelque chose, ils ne sont pas là, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour cela que c'est bon, au moment du culte, au moment qu'on va prier, qu'on va adresser à Dieu nos paroles, penser à ceux qui ne sont pas là. Pas seulement ceux qui sont malades et qui forcément ils ne sont pas là, mais ceux qui ne peuvent pas venir, peut-être... Il est arrivé quelque chose, je ne sais pas, mais ça c'est l'amour. Si on aime quelqu'un, certainement on va penser souvent à cette personne. Je sais qu'il a un grand défi pour cette église et on pense toujours à grandir, élargir l'Église, ouvrir des nouvelles églises. Mais je pense que c'est très important aussi que nous puissions pas seulement être ensemble le dimanche, mais être ensemble tous les temps. Tous les temps. En priant les uns pour les autres, mais aussi en s'y parlant. Peut-être, voilà, ce n'est pas seulement moi qui dois faire ça, je vais le faire, c'est certainement. Mais peut-être, je ne sais pas qui ici peut appeler, mais Tino! Michel, oui, Michel, non, parce qu'on ne sait qu'il n'est pas, ok, à cause de sa situation, mais qui vient souvent, qui n'est pas malade, qui n'a pas un péché, je n'étais pas vu à l'église. Mon frère, tu nous as manqué. Et ça, c'est bon. Ça donne vraiment, c'est un lien d'amour. Et ça nous encourage à revenir à l'Église. Toujours je dis que l'Église, l'Église pour moi, c'est ma 12e maison. Et c'est là que je dois me sentir bien. C'est ma 12e famille. Si je ne suis pas bien avec mes 16 soeurs, je ne serai pas bien à ma 12e maison. Parfois, nous avons beaucoup de choses à vaincre, à résoudre. Mais c'est vrai aussi que le contraire, c'est vrai aussi qu'on n'a pas de réponse parfois. Et c'est bon, c'est compréhensible quand on parle à Dieu parce qu'il est souverain, il décide toutes les choses. Mais par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, il peut nous exaucer, il peut donner la réponse à son temps, qui peut-être ça peut être notre temps, parfois. Mais avoir le silence de quelqu'un qui est autour de nous, ça c'est un peu difficile. Parce que c'est des gens qu'on voit, qu'on écoute, et qui parfois parle avec plusieurs personnes, il ne parle pas avec moi. Ou bien elle ne parle pas avec moi. Et ce silence-là, il tue. C'est un silence meurtrier. Il tue les gens. Mais le silence de Dieu, non. Le silence de Dieu nous enseigne, nous encourage, nous fait souffrir. Et c'est dans cette direction que je voudrais partager par rapport au silence de Dieu. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce qui m'aide dans les moments d'épreuve. Je vais juste partager simplement ce qui me paraît fondamentalement pour traverser les tempêtes de la vie. Ça veut dire partager ce que peut nous aider pour que nous puissions traverser les tempêtes de la vie. Dans la Bible, nous trouvons plus de 64 versets qui parlent du silence de Dieu. En Égypte, on voit que Dieu, dans l'époque d'Israël, qui était esclave, pas Israël, mais les Juifs qui étaient esclaves des pharaons, ils ont passé combien de années, combien de temps? 4 siècles et demi. N'est-ce pas? Mais en même temps, c'était un silence, voilà, que Dieu appelait Moïse pour dire, voilà, maintenant je parle avec vous. Mais aussi, il y a l'autre temps de Dieu, un temps de silence de Dieu, entre Malachie et Matthieu. C'était combien des années? 400 ans. 4 siècles que Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas utilisé des prophètes. Une chose qui a attiré mon attention, c'était vraiment ce sujet-là, le silence. Le silence qui parfois tue n'importe qui, mais aussi qui parfois nous aide à réfléchir à quel point de maturité nous sommes. Et la maturité vient quand nous passons pour les écoles, pour les enseignements, pour les problèmes. C'est impossible d'avoir une maturité sans avoir, ou bien sans passer par des épreuves. On va dire des déserts, des tempêtes, et plein d'autres choses que nous fait parfois ralentir, s'arrêter, ou bien douter de Dieu. Et au sujet du silence, je voudrais aller dans le langage que nous utilisons ici en France, le langage du dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire le silence dans un dictionnaire? Quelle est la réponse précise que les hommes, ils ont décidé, en comprenant le silence, de nous dire des réponses environ précises, plus ou moins précises. La première, c'est une action, ou bien c'est le fait de se taire, de ne rien dire. C'est une action, c'est un fait de se taire, de ne rien dire. Ça, c'est le silence. C'est une action. J'ai décidé, je ne vais pas parler. Mais aussi, c'est le fait de ne pas dire aucune chose. Ou bien de ne rien dire. L'autre conclusion, c'est l'absence de mention de quelque chose dans un écrit. Par exemple, les mails que nous utilisons, parfois, bon, moi je fais ça, je prends beaucoup de temps parce que le français, voilà, c'est un peu. Mais, même en portugais, je pense beaucoup avant d'écrire quelque chose pour que l'autre puisse comprendre. Et parfois, je n'écris pas tout ce que je pense pour éviter des problèmes. Ou bien je peux écrire pour créer des problèmes. C'est l'absence de mention de quelque chose dans un écrit. Mais aussi, c'est l'absence des bruits dans un lieu calme. C'est l'absence des bruits dans un lieu calme. Donc, pour moi, ce dernier exemple, la dernière phrase, absence des bruits dans un lieu calme. Comment ça? Si le lieu il est déjà calme, peut-être là des bruits, il n'a pas de bruit. Mais souvent, il n'a pas de bruit. Je vous invite à lire avec moi ce passage. Non? Non? C'est pas moi. La flèche. Très bien. J'ai des cérémonies, je veux. Ah, ça, d'accord. Ça va venir. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette lecture? Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41, il dit: Ce même jour, sous le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il s'y trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon. Les flots s'y jetaient dans la barque, au point qu'elle s'y remplissait déjà. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut une grande calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils s'y dirent les uns les autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que faire quand Dieu semble silencieux au milieu de nos tempêtes? Que faire quand Dieu semble silencieux au milieu de nos tempêtes? Concernant le passage biblique que nous venons de lire, l'événement qui a eu occasion avec Jésus et ses disciples s'y passait sous la mer de la Galilée. Mais où se trouve cette mer? Quelqu'un dit le lac, l'autre dit la mer. Comment un lac peut créer ou bien donner des tempêtes si le lac il est calme? Peut-être la mer, oui. La mer de la Galilée était connue pour ses tempêtes violentes et soudaines. Cette province est située environ à 5 km de Jérusalem. C'est un grand lac d'eau douce qui reçoit les eaux du Jourdain. C'est l'autre fleuve. Il fait environ 20 km de long, il faut faire attention, hein? 20 km de long et 12 km de largeur. 20 km de long et 12 km de largeur. Il a également une profondeur, ça c'est très intéressant, de 20 à 230 mètres de profondeur. Et ce n'est pas le lac Léman, il est combien, 150 ou bien, des profondeurs? Il faut que vous puissiez savoir, hein, parce que sinon je vais faire la recherche. 150 au milieu des profondeurs. Cette région était particulièrement favorisée par le climat tempéré de la plaine de Génézaret, entourée de montagnes et de parois rocheuses. Vous voyez comment c'était la situation? Comme se trouvait la situation dans cette époque, quand Jésus il a décidé d'appeler ses disciples, de le mettre dans une barque et de traverser. Tout était bien. Il n'avait pas de tempête. Tout le monde était, je pense, avec la joie, hein, avec le Seigneur Jésus. Mais aussi ce qui favorisait la survenue des tempêtes soudaines. Ce fut l'une de ces tempêtes qui effrayèrent les disciples pendant que Jésus dormait. Voilà. Pendant que Jésus dormait. Le verset 37, il s'éleva en grand tourbillon et les flots s'y jetaient dans la barque au point qu'elle s'y remplissait déjà. C'est ça parfois qui nous arrive. Nous pouvons être sûrs que le Christ, que Jésus, que Dieu, il savait qu'il allait soulever une tempête terrible. Bien ou non, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il savait. Mais il savait aussi qu'il devait traverser, qu'il devait y aller, qu'il devait passer dans l'autre bord, dans l'autre côté. Il devait continuer sa marche pour parler de son amour, de sa grâce. Et parfois ça nous arrive. Parfois nous devons traverser des circonstances difficiles qui se présentent dans notre vie quotidienne. Tout est bien. Nous sommes à l'église. Tout est bien. Je vais aller travailler demain. Tout est bien. Mon épouse est bien. Voilà ma famille, mon époux, voilà mes enfants. Tout est bien. Mais soudain, il y a une tempête. Les tourbillons chez les chrétiens, ce n'est pas interdit. Chez nous, ce n'est pas interdit. Un problème de santé dans notre famille, une perte d'emploi, etc., etc. Qu'à ce moment de tempête qui vient, que nous n'espérons pas, ça nous blesse. Et ça peut aussi, parfois, nous faire douter de Dieu, douter de notre foi. Parfois, à l'église, on voit Jean-Pierre, Jean Cavalla, n'est-ce pas, qui se battent, vous-même, qui se battent pour que l'évangile puisse être prêché, on prie. Bon, je viens d'arriver, voilà, je commence à vous aider, mais les deux, vous ensemble, dans une tempête, que vous venez de sortir, il y a des autres tempêtes qui viennent. Des frères et sœurs qui sont malades, de quelqu'un qui décide, ah, je ne vais pas continuer à aller à l'église, de quelqu'un qui pense ceci, qui pense cela, qui... de quelqu'un qui déménage, qui était ici, mais à cause du travail, mais papai, ils ont changé, non, pourquoi, ils sont dans l'autre, ils doivent voyager. Et c'est des tempêtes, c'est des problèmes qui nous arrivent, mais nous devons fais confiance en Jésus. Fais confiance en Dieu. Même s'il est en silence. Même s'il est en silence. Le silence de Dieu, le silence de Jésus, le silence du Saint-Esprit, il faut bien garder cette phrase. Vous avez besoin. Le silence de la Trinité, ça ne veut pas dire son absence, son abandon. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Même dans nos souffrances, même dans nos doutes, même dans nos peurs, il sera toujours avec nous. Le verset 38, Jésus était à l'arrière endormi. Et lui, on dormait. Il s'y réveillait. Il leur dit, les disciples s'y réveillent. Il leur dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas? Ou bien, est-ce que tu comprends pas? Tu ne vois pas? Voilà, l'eau vient, il te frappe, le vent, le bruit, mais tu dors, comment? Nous sommes tous réveillés, mais tu dors. Et parfois, c'est comme ça. Nous sentons, nous souffrons, mais Dieu, il n'est pas là, il est absent, il n'existe pas. Ça, c'est le travail de notre ennemi, de nous convaincre que tout ce que nous sommes en train de passer, c'est à cause de nos péchés. Tout ce que nous sommes en train de passer, Dieu n'écoute pas parce qu'on avait péché. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être c'est ton papa, c'est ta maman. C'est ton ancienne génération. Hé, écoute-la. Pardon, utilisez cette phrase. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'était la théologie de l'Ancien Testament. Je ne vais pas sortir du texte, mais je vais simplement ajouter. Job, ce n'est pas lui qui a demandé à Dieu, voilà, Dieu, je veux décider, voilà, pour que tu puisses montrer à Satan que je suis fidèle au Seigneur. Il faut m'enlever toutes les choses. Il faut prendre toutes les choses que tu m'as données. Et tu vas voir. Non, c'est Dieu qui a décidé. Il ne faut pas me demander pourquoi, il faut lui demander. Si vous n'avez pas de réponse, il faut attendre son silence. Un jour, ou bien ici, ou bien je ne sais pas où, ou bien au ciel, pardon, il va vous donner la réponse. Mais le sujet que je voudrais vous bien préciser, c'est que Job, il n'a rien fait, la Bible dit. Il n'a pas péché, mais tous ses amis, ils sont venus vers lui pour dire, mais tu as fait quelque chose, tu as péché, il faut demander pardon. Et Job, quand même, à cause de la pression, de cette théologie d'accusation, que si ton entreprise ne marche pas, Pascal, parce que tu as fait quelque chose, tu as péché. Non, mais c'est comme ça. C'est une théologie, je ne sais pas quoi. Mais Job a dit, non, quand même, écoute, je ne voulais pas venir dans ce monde. Et la Bible dit qu'il a maudit le jour qu'il est né. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas adressé à son Dieu aucun mot. Parce qu'il avait un espoir, une foi, une connaissance intérieure de Dieu. Ce silence de Jésus a été un défi pour les disciples, parce qu'il était endormi, il dormait. Et après les disciples, ils ont lui réveillé, il dit, maître, il faut nous sauver. Ce silence de Jésus a été un défi pour les disciples. Les disciples n'ont pas compris pourquoi Jésus dormait, pendant que l'orage, que la tempête frappait le bateau. Et parfois, Jean, on ne comprend pas. Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi j'ai pas d'emploi? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et Dieu, il décide de ne pas parler, de ne rien dire. faut pas me demander pourquoi, parce que je ne sais pas. Peut-être il veut vous enseigner, m'enseigner quelque chose. L'apôtre Paul dit qu'il était un enfant, mais dès qu'il a grandi, il a changé de comportement, et maintenant, son comportement, il n'est pas comme un enfant. Il mangeait du lait, de la compréhension, de la connaissance, du discipulat biblique. Mais maintenant, dès qu'il est devenu grand, mûr, il ne fait pas les choses que les enfants font. C'est comme nous. La souffrance, les problèmes doivent nous faire avancer, mais pas s'arrêter, pas ralentir. Oui, peut-être on peut le faire, mais pas pour longtemps. C'est compréhensible. Mais on doit toujours avancer parce que sinon, nous-mêmes, on va comprendre que nous ne serons pas prêts ou prêtes à servir le Seigneur. Parce qu'on va faire la même chose qu'on avait fait. Et Dieu ne veut pas que ça puisse arriver. Une telle chose comme ça. Dieu veut nous utiliser. Verset 38, Jésus était à l'arrière endormi. Et de la même façon, le silence de Dieu, c'est un défi pour nous. Pourtant, il y a des questions auxquelles nous aurons peut-être jamais de réponse. Il y a des questions auxquelles, ça veut dire, des problèmes que nous sommes en train de passer, ou bien que quelqu'un est en train de passer, de souffrir, que nous n'aurons pas la réponse. C'est la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide. À nous, je pense, nous devons le comprendre. Il fait la séparation de la maturité spirituelle, de la connaissance de Dieu dans cette maturité, mais aussi de ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit, ou bien fait, ou bien aller faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. C'est ça la maturité. Ah non, je veux savoir le nombre de la sandale de Moïse. Mais on n'a pas, on ne sait pas quel était le numéro, la taille de la sandale de Moïse. Pas le numéro, la taille. Donc il y a des choses qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse pour le cancer, il n'a pas de réponse pour aucune chose. Il ne faut pas trouver la réponse dans le péché. J'ai péché, c'est pour cela que... Peut-être si vous avez cette théologie, je ne sais pas, mais je vous conseille de sortir vraiment de cet endroit. Cet endroit, je dis, ce n'est pas l'église que vous êtes, mais, que quelqu'un, mais de l'endroit de la compréhension, de la connaissance. Les disciples ont dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La réponse de Jésus face à l'incrédulité des disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? La peur est une émotion normale de l'organisme, c'est vrai. Mais parfois la peur nous amène à un processus d'éloignement de Dieu. Commence une crise de foi dans laquelle l'existence de Dieu est mise en doute. Mais j'ai la foi, il ne répond pas. Est-ce que Dieu existe? Comment avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Il a dit, pourquoi vous avez peur? Et après, il a dit, comment n'avez-vous point de foi? Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans toutes les périodes difficiles que nous traversons, ce sera la foi que nous avons en Dieu
qui nous aidera à traverser les tempêtes de nos vies. La foi en Dieu. Des choses, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, c'est l'autre théologie qui entre ici. Je ne vais pas parler. Sinon, je vais sortir du thème du texte. Mais c'est l'assurance. Ça ne veut pas dire que si je vais prier pour mon cancer, je vais être guéri parce que j'ai la foi. Attention, la foi, c'est pour demander à Dieu. C'est pour présenter à Dieu. Et c'est lui qui guérit. Amen. C'est lui qui fait sa volonté. C'est la foi de la confiance en Jésus. Et cette confiance aussi ne va pas nous faire douter de ce qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Voilà ce que les disciples ils ont vécu pendant le temps qu'ils étaient avec Jésus en passant par le mar de la Galilée. Ça va aller. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, nous aurons des tempêtes, nous aurons des problèmes, on n'a pas de sortie, la porte s'est fermée, on ne trouve personne pour nous parler, pour nous comprendre. On a déjà parlé à plusieurs personnes, mais je n'ai pas de réponse. Nous ne comprenons pas ce qu'il s'y passe. Nous nous sentons submergés et vaincus et nous avons l'impression que jamais notre vie ne va s'améliorer. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont dans les problèmes et problèmes et problèmes. Ils n'ont jamais eu quand même une minute de paix. De paix. Parce que toute sa vie, c'est un tourbillon. C'est des tourbillons, c'est des tempêtes, c'est des problèmes. Est-ce que cette personne n'a pas la foi? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que cette personne n'est pas Dieu? Oui, ou bien non. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu contrôle toutes les tempêtes, tous les tourbillons, tous les problèmes. Dieu contrôle. C'est faux. Ça veut dire que Dieu n'a pas perdu aucun moment de nos vies. Dieu nous accompagne depuis notre naissance. Même quand nous ne lui connaissons pas. Connaissons pas, voilà, pardon. Oui. Dieu contrôle tout, tempête. Il a déjà prévu le chemin de sortie. Pour l'instant, il utilise ces moments difficiles pour nous enseigner à dépendre de lui, pour nous faire mieux, pour résister aux tempêtes de la vie. Je vous invite à prier avec moi et que nous puissions faire confiance au Seigneur. Il ne va jamais nous oublier. Je ne sais pas quel est votre problème, quelle est votre situation, mais Dieu, il est là. Son silence, ce n'est pas son absence. Seigneur, je sais que tu nous écoutes et que tu nous accompagnes. Combien de fois j'étais au point quand même d'abandonner toutes les choses et parce que c'était dur, difficile pour moi, pour ma famille. Et je sais aussi qu'il y a des frères et sœurs qui sont en train de vivre des moments difficiles, des tempêtes avec vraiment des orages, des fortes pluies, oh Dieu, qui ne cesse jamais, ne s'arrête jamais. Dieu, notre Père, notre conducteur, notre Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre, même si on a peur, mais de continuer à croire que tu es avec nous, que tu nous accompagnes, que tu nous aides. Merci pour ces moments. Et qu'aujourd'hui, nous puissions sortir de cet endroit avec la foi que tu es avec nous et que tu vas nous aider à ton temps. Ton silence, ce n'est pas ton absence. Merci. Amen.